France Inter.
Just listen to some of the appalling waste we have already identified. $40 million to improve the social and economic inclusion of sedentary migrants. Nobody knows what that is. $8 million to promote LGBTQI+ in the African nation of Lesotho, which nobody has ever heard of.
Mardi, Donald Trump devant les parlementaires du Congrès américain, le président de la première puissance mondiale passe en revue les dépenses guillemets horribles qu'il a découvertes et qu'il vient de couper. $40 millions pour l'inclusion des migrants sédentaires. Personne ne sait ce que c'est, dit Trump. 8 millions pour les LGBTQI+, du Lesotho, il le dit au ralenti, un pays africain, le Lesotho, dont personne, selon lui, n'a jamais entendu parler. Alors bon, Lesotho, personne n'a jamais entendu parler, en tout cas, de ce programme LGBTQI+. En revanche, les subventions des États-Unis sont cruciales pour la lutte contre le VIH dans ce royaume montagneux de 2 millions d'habitants, inséré au cœur de l'Afrique du Sud. On se croirait dans un épisode de Friends, hein, mais les rires sont bien réels. Et à Washington, l'aide internationale vient donc de changer de nature. Désormais, il s'agit de qui est « friend », « ami », aligné sur les intérêts américains. Et dans le questionnaire que les associations doivent renvoyer avant le 17 mars, il faut répondre à une vingtaine de questions, dont par exemple « Votre organisation est-elle favorable ou non à la Chine ? Permet-elle ou pas de sécuriser des terres rares ?» L'aide internationale comme une arme politique, c'est la vision américaine. L'Afrique, visiblement, n'intéresse pas beaucoup Donald Trump. En 2017, il avait déjà confondu la Namibie et la Zambie pour évoquer un pays imaginaire, la Nambie. L'année suivante, Trump avait parlé des « shithole countries » africains, les pays de merde. Alors, qui connaît le Lesotho ? Elon Musk. Il aurait pu aider Donald Trump à réviser sa géographie. En septembre dernier, Musk a rencontré le premier ministre du Lesotho. Poignée de main chaleureuse, sourire, photo. Il s'agissait d'obtenir une licence pour ses satellites Starlink.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Bienvenue, c'est le moment de la semaine où on se pose un peu pour regarder l'économie comme on la vit et comme on la veut, ensemble, en bande, avec le coproducteur de ce magazine, Valentin Pérez. Hélène Bizio et Étienne Bertin sont à la réalisation, Emma Bouvier à la chasse au son, Anne-Laure Cochet au mix et Guillaume Ficheux à la technique. Je vous donne le programme jusqu'à 10h. Vers 9h40, la numéro 1 de la CFDT, Marie-Lise Léon, avec cette question. Faudra-t-il travailler plus ou couper dans nos dépenses sociales pour financer le réarmement ? Nous regarderons aussi le marché du travail avec la remontée du chômage et de nouveau les jeunes en première ligne, un fléau contre lequel les politiques publiques parviennent mal à lutter. Vous entendrez le reportage de Léa Gage. Ma vie au boulot, ce sont vos questions auxquelles répond tous les samedis Sandrine Foulon. Salut Sandrine.
Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde.
Alors ce samedi, vous avez bûché sur la question d'une de nos auditrices conductrices de bus.
Oui, son employeur voudrait qu'elle soit connectée, qu'elle installe une appli professionnelle sur son téléphone personnel. Ça ne lui plaît pas du tout, peut-elle refuser ?
Sandrine Foulon vous retrouve juste avant 10h. Mais tout de suite, le débat avec à mes côtés Sophie Fay. Bonjour Sophie.
Bonjour Alexandra.
Vous êtes journaliste au quotidien Le Monde et Xavier Jaravel est également avec nous. Hello Xavier.
Bonjour Alexandra, bonjour à toutes et tous.
Vous êtes professeur à la London School of Economics et membre du Conseil d'analyse économique. Alors, la nécessité du réarmement de l'Europe en général et de la France en particulier, voilà ce dont il a été question cette semaine avec le sommet européen, avec le discours d'Emmanuel Macron, des déclarations d'intention comme on n'en avait pas entendu depuis des décennies, y compris en Allemagne. Mais alors, comment passer aux actes ? Qui va payer ? Et d'abord, cette question, est-ce que nous sommes en train de basculer dans une économie de guerre ? C'est le débat.
Notre prospérité et notre sécurité sont devenues plus incertaines.
Emmanuel Macron.
Et il faut bien le dire, nous rentrons dans une nouvelle ère. J'ai demandé au gouvernement d'y travailler le plus vite possible. Ce seront de nouveaux investissements qui exigent de mobiliser des financements privés, mais aussi des financements publics, sans que les impôts ne soient augmentés. Pour cela, il faudra des réformes, des choix, du courage.
pas toucher aux impôts, traduisait pour Emmanuel Macron de pas toucher au revenu faramineux du capital depuis quelques années, dividendes, etc., mais de faire cotiser notre modèle social.
Éric Coquerel, député La France Insoumise, président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale.
Et tout ça au profit d'une économie de guerre dont on a du mal à voir l'utilité de l'objectif. Est-ce que la Russie menace la France? Est-ce que la Russie menace nos voisins immédiats dans les années à venir? Moi, je ne crois pas que c'était les buts de guerre de M. Poutine.
L'imprévu doit être pris en compte.
Gilbert Sept.
L'imprévu, c'est... On doit se diriger vers une économie de guerre.
Président du Conseil d'orientation des retraites.
Est-ce que dans 6 mois, un an et demi, les débats sur l'âge du départ à la retraite à 64 ans, d'un éventuel retour à 62 ans ou d'un arrêt à 63 ans paraîtront pas dérisoires? Et si les questions ne seront pas... Est-ce qu'on ne doit pas le passer à 65, 67, voire davantage?
Sébastien Lecornu.
Je pense qu'il y a des pistes intéressantes de mobilisation de l'épargne des Français.
Ministre des Armées.
Mobilisation volontaire. C'est de se dire, pour les Françaises et les Français qui veulent placer de l'argent de manière patriotique, voire rémunérer cet argent, se dire que cet argent-là va permettre de réarmer le pays, je trouve que c'est intéressant comme idée.
On a des avoirs russes.
Raphaël Glucksmann.
209 milliards dans nos banques en ce moment qui sont gelés.
Député européen, place publique.
Il faut les saisir et les affecter à l'aide à l'Ukraine. La gravité du moment est telle. Et la faiblesse de nos moyens aussi, que c'est la seule solution si on veut remplir le vide laissé par les Américains sans faire payer les citoyens européens.
Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.
L'Europe est prête à assumer ses responsabilités.
Rearm Europe.
Le plan Rearm Europe pourrait permettre de mobiliser près de 800 milliards d'euros pour une Europe sûre et résiliente.
For a safe and resilient Europe. This is a moment for Europe.
L'heure de l'Europe a sonné et nous sommes prêts à passer à la vitesse supérieure.
Le débat avec Sophie Fay du quotidien Le Monde et Xavier Jaravel de la London School of Economics. Xavier, je me tourne vers vous. Le paysage change à grande vitesse, mais est-ce que nous sommes en train de basculer vers une économie de guerre?
Économie de guerre, non, mais économie de guerre froide, probablement, en tout cas à moyen terme. C'est intéressant de remettre en perspective des chiffres, c'est-à-dire qu'on est évidemment loin des niveaux de dépenses militaires qui vont prévaloir dans des conflits de haute intensité, comme c'était le cas pendant la Seconde Guerre mondiale, où la plupart des pays étaient à près de 50% de leur PIB dévolu à la guerre, des contrôles des prix. Donc c'est ça, une économie de guerre. Une économie de guerre froide, c'est plutôt de 5 à 10% du PIB consacré à ces activités militaires. C'est le cas pour les États-Unis, pour la Russie. Nous, la France, dans les années 70, on était plus bas, c'était plutôt 3,5% du PIB. Et ces niveaux-là, 3%, 3,5% du PIB, c'est ce dont on parle, ce vers quoi la France pourrait se rediriger. Et en fait, on avait une loi de programmation militaire en France où on était déjà sur une trajectoire de hausse des dépenses militaires. Et donc aujourd'hui, on est environ 50 milliards de dépenses liées aux armées par an. Et on allait vers 70 milliards. Et là, on a une accélération avec les annonces récentes. Et on va plutôt vers 90 milliards. Donc, vous voyez, quand on décompose, en fait, c'est une hausse de 20 milliards en plus d'une hausse déjà prévue. Et donc, c'est une hausse globale de 40 milliards par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, c'est des niveaux importants, mais vous voyez, on peut toujours tout mettre en perspective, c'est-à-dire que c'est finalement peu par rapport à 1700 milliards de dépenses publiques. En même temps, c'est beaucoup par rapport...
On sait que c'est très dur à trouver quand
C'est toujours dur à trouver. Par exemple, vous voyez, une réforme des retraites, ça vous rapporte de l'ordre de 10 à 20 milliards, donc c'est le même ordre de grandeur. Une taxation des très riches, ça peut être de 2 à 10 milliards en fonction des chiffrages que vous faites.
On va en parler.
Donc c'est à la fois peu et beaucoup. Par personne, par Français, c'est 600 euros, cet effort de 40 milliards supplémentaires. Et donc l'économie de guerre, c'est ça aussi. Donc c'est des dépenses publiques plus importantes, mais il faut bien tout remettre en perspective. C'est plutôt guerre froide, je dirais. Et puis c'est aussi un rôle plus prépondérant pour les industries liées à l'armement. Et donc là, il faut rappeler que la France est un acteur majeur sur la scène internationale. On est à peu près souvent deuxième ou troisième dans les exports mondiaux. On représente 11% des exports mondiaux. Les États-Unis, c'est 40%. La Russie, c'est de 10 à 20% en fonction des années. Et donc, toutes ces entreprises françaises, Dassault, Naval Group, Safran, Nexter, Thales, Airbus, ont eu cette semaine des valeurs boursières en hausse. Et joue un rôle important dans l'économie française, mais qui est de l'ordre, vous voyez, de 0,5-1% du PIB. Donc, à nouveau, c'est important, mais ce n'est pas, bien sûr, la majeure partie de l'économie.
Sophie Fay, Xavier nous a fait un beau panorama chiffré. Vu du terrain, est-ce que vous avez une perception qu'on passe en économie de guerre ou de guerre froide ou une économie de paix, dit Éric Lombard? Comment vous sentez ça?
Alors, on a une définition de l'économie de guerre qui a été donnée par un économiste qui est professeur à l'Académie militaire de Saint-Cyr, Alain Quinet, et qui dit l'économie de guerre, la première étape de l'économie de guerre, c'est quand on dit l'objectif de la politique économique, c'est plus d'améliorer votre niveau de vie, c'est de faire autre chose. Donc, c'est de défendre la vie, la santé en cas de Covid, c'est de défendre, de lutter contre le réchauffement climatique, par exemple, ou bien c'est de se réarmer. Donc, est-ce que on en est là? Est-ce qu'on dans ce changement. Pour certains chefs d'entreprise, en fait, l'économie de guerre, on y est depuis le Covid, puisque depuis le Covid, en fait, on n'est pas... on a un autre objectif que simplement la croissance, les marges, on doit réorganiser ces chaînes d'approvisionnement. Donc, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont l'impression que depuis déjà plusieurs années, le Covid, la guerre en Ukraine, on est dans un monde qui n'est pas tout à fait classique, quoi, qui n'est pas l'économie de paix. Et puis, il y a aussi la vision des militaires et de l'industrie. Pour eux, l'économie de guerre, c'est un truc très concret. C'est quand les commandes militaires arrivent et quand vraiment l'industrie de l'armement change. Et ça, Emmanuel Macron en a parlé quelques mois après le début de la guerre en Ukraine, hein, en juin 2022. Et il a déjà dit, on va vers l'économie de guerre, on va accélérer les procédures, on va accélérer les commandes. Mais dans les faits, les commandes, elles ne sont pas encore arrivées. Ce qu'on a, nous, pour l'instant, c'est une industrie de l'armement qui est une industrie du luxe. On fait des armements très sophistiqués, en très petite série, qu'on vend très cher, avec de fortes marges. Mais on ne fait pas ce qui se profile là et ce que demande l'Europe, c'est-à-dire des armements de masse où on réouvre des usines, où on embauche beaucoup d'ouvriers, où on fait des chaînes de production, et puis où on essaye d'être indépendant stratégiquement, donc en allant jusqu'à produire la poudre. Tout ça, c'est des activités en fait, dont on s'est un peu séparé, parce que ça ne produisait pas assez de marge. Et puis, ce n'était pas toujours très propre sur le plan de l'environnement.
Et puis, il y avait le parapluie américain.
Voilà.
Donc, c'était ça le sujet aussi.
Et donc, on n'y est pas encore, mais on est dans un moment où, en fait, on est en train de basculer quand même, sans doute.
Alors, avec quel... Oui, Xavier ?
Mais juste un point peut-être à rajouter, c'est que la guerre froide a aussi eu des implications technologiques majeures, et y compris en fait pour le reste de l'économie. Il y a eu une impulsion dans plein de domaines, GPS, Internet, en passant par les ordinateurs, le spatial, l'aéronautique, ou par avant même le nucléaire. Et donc il y a plusieurs travaux en fait qui montrent qu'il y a eu toutes ces externalités technologiques qui venaient d'investissements dans l'armement, dans un effort de guerre froide. Et ensuite, ça a en fait irrigué l'économie, ça a accéléré la diffusion de plusieurs technologies. Et donc en fait, c'est un élément dont on peut aussi attendre qu'il puisse aussi se réaliser aujourd'hui.
C'est-à-dire si on met plus d'argent pour le réarmement, il peut y avoir des impacts positifs pour l'économie civil.
Voilà, sur la croissance, et un élément un peu tangible de ce point de vue-là, c'est ce qui s'est passé en Allemagne et ce qui s'est passé sur les taux européens. Donc l'Allemagne a annoncé un changement de braquet encore plus fort que la France, avec un plan de 500 milliards sur plusieurs années. Et il y a eu une hausse des taux d'intérêt. Et un peu deux interprétations. La première, c'est
une hausse des taux d'intérêt auxquels les pays européens empruntent sur les marchés.
Notamment l'Allemagne. Hein, l'Allemagne, souvent, c'est le pays vu comme le plus sûr. Et donc l'Allemagne augmente, tout le monde augmente. Et la première interprétation, c'est de dire l'offre d'épargne est fixe. Hein, donc, les investisseurs ont un montant qu'ils veulent bien prêter. Et là, les États veulent emprunter davantage, notamment l'Allemagne. Donc, on va demander un prix plus élevé. Ça fait augmenter les taux. Et une autre interprétation qui est de dire, en fait, on s'attend aussi à ce qu'il y ait une hausse de la croissance à plus long terme liée à cet effort d'investissement qui peut lui-même avoir des répercussions technologiques, ce que je disais à l'instant. Mmh. Et c'est cette interprétation-là qui est... avancé par les spécialistes allemands, parce qu'en fait on voit que les taux aussi de long terme augmentent, alors que souvent quand c'est plutôt ces questions d'instabilité, des problèmes avec entre offre et demande d'épargne, c'est à court terme que vous voyez cette hausse des taux. C'est ce qui s'était passé par exemple en Grande-Bretagne avec les problèmes avec Liz Truss. Donc c'est un exemple, et le message c'est de dire qu'il peut aussi y avoir des bénéfices technologiques de ces investissements.
Et de croissance, je vous entends bien, et de croissance. Mais tout ça avec quel argent? C'est un peu l'argent, le nerf de la guerre. Sophie Fay, on a eu le plan à 800 milliards annoncé à Bruxelles.
Ou alors en réalité, ce qui va être débloqué tout de suite, c'est 150 milliards d'euros, et c'est un peu en dessous de ce dont on a besoin. Et le deuxième étage de ce plan, c'est de dire aux États, vous pouvez ne plus respecter enfin, dépasser les objectifs du pacte de stabilité pour pouvoir emprunter, pour financer ses dépenses. La difficulté, c'est qu'on voit que les taux ont remonté, et quand on regarde les taux français, on arrive quand même à une... on arrive à des taux de plus de 3,5%, on arrive quand même à une... à un moment où on se demande si, si tout ça est finançable, et on sait que ça va coûter très cher. Donc, pour l'instant, c'est un peu le... on a l'impression qu'on est dans un mistigris, quoi. On se repasse les États-Unis qui veulent plus dépenser, qui sont très endettés, qui veulent dépenser moins pour la dépense, le repasse à l'Europe. L'Europe s'apprête à endetter et se repasse, la Commission en prend un bout, mais le repasse aux États. Donc c'est un peu le mistigris, là, et on voit bien que ça fait s'envoler les taux et qu'on ne sait pas très bien comment on le financera. Alors quand on regarde ce qui s'est passé... dans les 150 dernières années, hein, il y a eu une étude du Kiel Institute pour regarder qui comment se partageaient les dépenses et qui payait.
Argent privé ou argent public?
Bah, alors, ce qu'on voit, c'est que c'est toujours l'endettement
okay.
et l'impôt, grosso modo. Et donc, on a un débat sur les dépenses sociales. Hein. Est-ce qu'on doit prendre, est-ce qu'il y a un arbitrage entre dépenses militaires et dépenses sociales? Il y a, la question se pose, mais dans les faits, ce qu'on voit, c'est que c'est surtout l'impôt et la dette plutôt que les dépenses sociales qui payent.
Oui, est-ce qu'il faut travailler, Xavier, les dépenses sociales, c'est l'assurance chômage, l'assurance retraite, l'assurance maladie. Est-ce qu'il faut, en effet, dire on va dépenser moins pour ces dépenses sociales qui, en France, représentent une large part du PIB, parce qu'il faut bien financer les armes.
Je ne suis pas certain qu'il faille peut-être poser la question comme ça. C'est-à-dire que le premier point, c'est que... l'Europe, Bruxelles dit, on peut en fait s'endetter plus, on change les règles de frein à l'endettement. D'habitude, on a cette règle à 2-3%. Ce qui a été annoncé cette semaine, les 800 milliards dont on parle, en fait, c'est 650 milliards où on peut diverger des règles d'endettement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir augmenter nos dépenses militaires sans que ça compte dans les règles de déficit. Et donc, c'est très probablement ce qu'on va faire, en fait. S'endetter davantage, et c'est perçu comme une bonne dette. C'est-à-dire que c'est une manière de lisser des investissements importants de court terme. De même que quand il y a une pandémie ou une crise économique, on fait des gros investissements, un soutien à l'économie à court terme, et on se dit que c'est un bon usage de la dette. Donc ça, c'est le sujet principal dont on parle quand on parle de ces investissements militaires. Et le deuxième sujet dont vous parlez, c'est on a des finances publiques françaises qui ne sont pas bien maîtrisées depuis longtemps. On est à 6% de déficit hors période de crise. Et donc ça, c'est un déficit dont on veut reprendre le contrôle. Et donc, est-ce qu'il faut réduire la dépense sociale, réduire la dépense des collectivités locales?
Emmanuel Macron dit qu'il va falloir des réformes, des choix, du courage. Donc on sent que c'est un peu dans la balance. On a entendu pas mal de voix ces dernières heures pour dire pour certains qu'on dépensait trop pour les retraites, pour d'autres pour s'angoisser d'un recul du modèle social.
Oui, mais il me semble qu'il faut éviter un traitement trop politique du sujet. C'est-à-dire qu'il y a plus un sujet de long terme qui est la maîtrise des finances publiques en France, et on connaît le débat habituel. Certains vont dire hausse d'impôts, ménage entreprise, d'autres vont dire ralentissement des dépenses publiques, notamment la dépense sociale et collectivités, parce que c'est le gros de la dépense publique. D'autres vont dire hausse de la productivité, hausse du nombre de personnes qui travaillent, ça permet d'avoir des rentrées fiscales plus élevées. Et d'autres vont dire non, il faut juste continuer à maintenir la dette. Et il me semble que cet effort militaire, il change un peu la donne, mais pas fondamentalement. Juste pour donner un chiffre, c'est 20 milliards en plus, et de toute manière, il y a une marge de 140 milliards à gravir. Donc il me semble effectivement, dépenses sociales, dépenses de collectivités locales, c'est souvent là qu'on se dit qu'il y a les plus grosses masses. Voilà.
Sophie,
je crois qu'il faut ni se cacher derrière l'effort de guerre pour dire on peut s'endetter autant qu'on veut et ne pas régler les problèmes de dépenses publiques et les problèmes d'amélioration de l'efficacité de notre système social, ni utiliser l'argument de l'économie de guerre pour repousser brutalement l'âge de départ à la retraite ou faire des réformes brutales. En fait, il faut dissocier la nécessité d'améliorer l'efficacité de notre système et l'effort de guerre.
Xavier Jaravel, Sophie Fay, ils ont fait le débat dont n'arrête pas l'écho.
Real decreto ley para la ampliación de derechos de los industrialisierung und
unemployment and lower job
creation.
L'économie comme elle tourne ailleurs à présent. Eh bien, on va aux États-Unis, légère remontée des chiffres du chômage.
151, the number coming in at 151,000 jobs for the month, just below that survey. Now we've got the unemployment rate. This is a key data point here. The estimate for 4% coming in just above that at 4.1%.
Le mois dernier, les États-Unis ont créé 150 000 emplois contre 220 000 un an auparavant. Le taux de chômage américain, il a légèrement progressé à 4,1%. Bon, rien d'alarmant, mais les analystes commencent à émettre des doutes sur la première puissance économique mondiale. Bonjour Hélène Chevalier.
Bonjour Alexandra.
Vous êtes correspondante aux États-Unis pour France Inter. Alors, ces chiffres de l'emploi américain ne montrent pas un impact négatif du retour de Trump à la Maison-Blanche, mais Hélène, il ne calme pas non plus les inquiétudes.
Non, car c'est peut-être aussi le calme avant la tempête. Ces chiffres ne reflètent que la première vague du tsunami de licenciements dans la fonction publique. L'enquête a été réalisée il y a 3 semaines. Elle ne mentionne que 10 000 postes supprimés parmi les employés fédéraux, alors que les Rangers, agents du fisc ou de l'USAID, seraient au moins 5 fois plus à avoir fait leur carton. Et beaucoup d'autres s'y préparent, à moins qu'Elon Musk soit obligé de ranger la tronçonneuse qu'il brandissait si fièrement au-dessus de sa tête il y a 2 semaines. Donald Trump, qui n'a cessé de défendre l'action de son ami multimilliardaire, a calmé ses ardeurs en cette fin de semaine. Après un échange musclé entre le patron de SpaceX et Marco Rubio, le président américain est allé dans le sens de son secrétaire d'État, indiquant qu'il valait peut-être mieux y aller au scalpel plutôt qu'à la hache, histoire de ne pas se priver des employés les plus qualifiés.
Hélène, et le monde des affaires commence aussi à douter.
Oui, l'arrivée de Donald Trump avec ses réductions d'impôts, des dépenses, la déréglementation, tout cela avait été pourtant très bien accueilli, mais les coupes budgétaires massives et imprécises, les va-et-vient sur les frais de douane, bref, l'incertitude ambiante a freiné l'engouement des entreprises et des marchés. Si Wall Street a fini en légère hausse cette nuit, certains indices sont cette semaine descendus à des niveaux qu'ils n'avaient pas atteints depuis septembre 2022. De très grandes firmes du classement Fortune 500 ont aussi revu à la baisse leurs prévisions de croissance. Même les crypto-monnaies font la grimace. Pourtant, le président américain ne cesse de leur dérouler le tapis rouge, à l'image de cette réunion des acteurs du secteur hier à la Maison-Blanche. Le Bitcoin, qui avait atteint son record historique le jour de son investiture, a depuis perdu plus de 20% de sa valeur.
Hélène Chevalier avec nous de Washington. – 9h34 sur France Inter, la secrétaire générale de la CFDT est l'invitée du Mag Éco dans moins de 10 minutes. Question à Marie-Lise Léon sur les plans sociaux, les retraites, le réarmement de la France. Mais d'abord, zoom sur le marché du travail. Le chômage remonte, certains le voient à 8% en fin d'année. La perspective d'une France au plein emploi, c'est-à-dire autour de 5% de taux de chômage en 2027, eh bien elle s'éloigne. Et surtout, nous a rappelé le Conseil d'analyse économique cette semaine, on n'y arrivera pas si on ne s'occupe pas de l'insertion des jeunes. Pour eux, trouver un emploi, c'est lent, c'est difficile, notamment pour ceux qui ont mis fin à leurs études lorsqu'ils avaient 18 ans. Et en comparaison de l'Allemagne, du Royaume-Uni, des États-Unis, la France est un cas particulier. Pourtant, depuis des années, on a nombre de dispositifs qui se sont succédés pour améliorer le taux d'emploi des jeunes. Alors pourquoi les politiques publiques parviennent-elles mal à lutter contre ce fléau ? Ce matin, nous allons en Nouvelle-Aquitaine, à Niort, plus précisément, où l'association Solidarité Nouvelle Face au Chômage accompagne des jeunes en quête d'emploi et notre reporter Léa Gage assiste à un rendez-vous.
Bonjour Lucas, bienvenue.
Bonjour, merci.
Bonjour. Là,
bonjour.
Je vous propose de t'installer là.
Merci.
Et puis, on va déjà démarrer par faire connaissance tous les deux. Donc moi je suis Emmanuel Valentin, je suis bénévole chez Solidarité Nouvelle Face au Chômage depuis 10 ans. Je veux bien que tu te présentes à ton tour et que tu me dises un petit peu ta situation.
Moi c'est Lucas, j'ai 23 ans, je suis en recherche d'emploi depuis maintenant 6 mois, sorti d'études, diplômé d'un master en direction artistique et en graphisme, en alternance. Mais effectivement, il n'y avait malheureusement pas de place pour reconduire les contrats d'alternant au sein de cette entreprise. J'ai entrepris évidemment des démarches. J'ai réalisé une dizaine de candidatures France Travail et une vingtaine de candidatures spontanées. Mais pour l'instant, ça n'aboutit à rien. C'est un peu une déception de sortir de 5 ans d'études avec 2 ans d'expérience professionnelle pour au final poursuivre sur 6 mois de chômage et de grosses difficultés à trouver un emploi. Quand je vois les autres personnes de ma promo, je me rends compte qu'on est globalement dans la même situation.
Donc tu as un parcours très cohérent qui amène une question du coup sur le fait de pourquoi ils ne trouvent pas. On a plus de 230 personnes de moins de 30 ans qui ont un accompagnement en cours aujourd'hui auprès de bénévoles SNC. et un quart d'entre eux, ça a démarré depuis décembre. Donc, je dirais que c'est vraiment la conjoncture actuelle, depuis fin 2024, début 2025. Depuis quelques mois, effectivement, c'est ce qu'on constate quand même, que c'est de plus en plus difficile de trouver, malgré la valeur de tes expériences et de ton CV. Ça suffit plus aujourd'hui pour retrouver un emploi facilement.
Merci beaucoup.
Lucas a finalement obtenu un poste de graphiste dans une petite agence de publicité. Mais il va devoir déménager dans une autre ville, à 60 km de là. La situation se tend sur le marché du travail et le chômage des jeunes augmente deux fois plus vite que la moyenne nationale. Depuis 2022, ces jeunes demandeurs d'emploi peuvent signer un contrat d'engagement jeune à France Travail. Un accompagnement intensif pour les aider à s'insérer dans l'emploi ou à se former. Je me rends à Lens, dans les Hauts-de-France, où 1600 jeunes ont signé ce contrat en début d'année.
Alors moi je m'appelle Caroline Lebas, je suis conseillère en insertion professionnelle chez France Travail et j'accompagne les jeunes dans le cadre du contrat engagement jeune. C'est un dispositif donc, qui s'adresse aux jeunes de moins de 26 ans. On les accompagne pour une durée de 6 mois avec un rendez-vous, un contact par semaine.
Dans les bureaux de France Travail, Caroline accueille de nouveaux inscrits.
Je vais vous demander de sortir votre portable et de vous mettre sur votre appli CEJ, s'il vous plaît. Contrat engagement jeune. Alors, quand on va sur l'accueil, je vais vous demander de vous mettre sur votre accueil. Qu'est-ce qu'on découvre? Qu'est-ce que je dois faire cette semaine? Je me suis engagée à quoi? Votre prochain rendez-vous et mes offres d'emploi. Et donc, on a les offres France Travail, mais aussi les offres partenaires. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur l'appli? Mettre mes démarches. Alors, ça, il faut vraiment bien le mettre à jour. Ça nous permet de savoir où vous en êtes. On fixe dans le contrat engagement jeune qu'il y a 15 heures d'activité à faire par semaine de recherche d'emploi. En gros, on va matérialiser toutes les étapes dans cette application sous une forme de planning. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine par rapport à ma recherche d'emploi? Déjà, c'est par exemple la construction de son CV. Donc, vous vous connectez, on va vérifier si ça fonctionne ou pas.
Vous en avez déjà sur l'appli?
Oui, j'en ai plusieurs. J'ai une mission d'intérim, j'ai des ateliers, les rendez-vous avec ma conseillère, puis les recherches d'emploi.
Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter peut-être votre prénom, votre âge?
Oui, du coup, Margot, 20 ans. Je suis dans le dispositif depuis une semaine environ. J'ai eu mon bac il y a 2 ans et demi, 3 ans. Et du coup, je suis allée en développement web, option communication, donc pour faire tout ce qui est community management. Au final, ça m'a pas plu et puis j'ai pas trouvé entreprise. Je m'attendais pas à galérer autant pour trouver ma voie. Et c'est vrai que je pense que je suis pas la seule à être un peu perdue dans ce que je veux faire.
Bonjour, je m'appelle Émilie, j'ai 21 ans. J'ai fait un bac au commerce. En fait, j'ai fait énormément de jobs dans le commerce. Après, j'ai essayé de faire une formation assistante comptable. J'ai essayé de reprendre mes études en septembre dernier. Et j'arrive pas. Je sais pas du tout dans quoi partir.
Donc là, vous venez surtout ici pour vous orienter.
C'est ça. Donc je fais un projet que ma conseillère m'a conseillé. Ça s'appelle Active Projet. Et en fait, c'est avec une psychologue du travail. Et en fait, on fait des tests pour de là aller en formation ou trouver quelque chose qui pourrait me plaire sur le long terme.
Après, l'Active Projet, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail sur toi, sur des recherches de métiers. C'est vraiment beaucoup de temps pour construire ton avenir pro derrière.
Oui.
Alors, en général, ça aboutit à quoi le contrat d'engagement jeune? Est-ce que tous les jeunes trouvent un emploi à la sortie?
La moitié des jeunes qui ont suivi le contrat d'engagement jeune retrouvent un emploi. Plus de 30%, c'est des CDD de plus de 6 mois. Beaucoup de missions intérimaires. On peut avoir des contrats de 3 mois, de 5 mois. On est sur des choses très variables en fonction du contexte aussi économique. Les secteurs qui sont les porteurs ici dans la région, alors on a beaucoup d'entreprises de logistique. Si on a un jeune qui a fait des études dans le domaine de la maintenance, le profil va partir très vite. En revanche, on va dire le secteur du commerce qui est en pleine évolution, c'est un peu plus compliqué. Le secteur aussi administratif, où on a beaucoup de profils de formés, ça va être un peu plus difficile. Donc on essaye vraiment de les mettre en face de la réalité de leur marché du travail. On n'est pas là pour vendre du rêve hein, au niveau du marché de l'emploi. On s'adapte à notre marché de l'emploi.
Pour tenter d'orienter les jeunes vers les secteurs qui recrutent, la plateforme Immersion Facilité a été lancée en 2014. Elle met en relation des entreprises avec des demandeurs d'emploi pour découvrir un métier en conditions réelles.
Depuis des années, chaque gouvernement y va de son nouveau dispositif. Garantie jeunes, parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi, aide à l'embauche des jeunes. Pourtant, le taux de chômage des jeunes, selon l'INSEE, dépasse constamment les 16% depuis le début des années 80. Un chômage structurel, donc, qui se maintient. Pourquoi ? J'ai posé la question à Antoine Dulin, membre du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse.
On investit puis on arrête, on investit puis on arrête. On est dans des logiques de stop and go. On a eu un investissement très fort dans l'apprentissage ces dernières années avec des plans à plus de 20 milliards d'euros. Donc il y a eu de l'investissement sur l'apprentissage, il y a eu de l'investissement sur le contrat d'engagement jeune. Mais malheureusement, en 2024, il y a eu le premier coup de rabot budgétaire. Donc on a un coup de rabot sur l'apprentissage, un coup de rabot sur les contrats aidés, un coup de rabot sur le contrat d'engagement jeune qui a été limité. C'était un droit ouvert et là on a mis un quota, seulement 200 000 jeunes vont pouvoir bénéficier du contrat d'engagement jeune. On a arrêté un autre dispositif appelé le contrat d'engagement jeune en rupture pour aller chercher les jeunes les plus éloignés de l'emploi, les moins diplômés, ceux qui ne franchissent pas les portes des missions locales, de France Travail ou des associations pour se faire aider, alors même que dans notre pays, il y a une problématique autour de ce qu'on appelle les jeunes ni en emploi ni en formation. C'est aujourd'hui 12% des jeunes de 15 à 29 ans qui sont ni en emploi ni en formation, c'est-à-dire NEET. Et ils représentent ceux pour qui l'action publique doit être portée. Or, on peut voir que dans d'autres pays européens, comme dans les pays du Nord, en Suède, au Danemark, on a mis en place, dès 18 ans, des dispositifs qui permettent de sécuriser les jeunes, notamment en matière de ressources financières, pour l'accompagner dans la formation. On a des filets de sécurité. En France, on n'a pas ces filets de sécurité-là. Comme le revenu de solidarité active, le RSA, n'est pas ouvert aux jeunes de moins de 25 ans, quand on se retrouve sans solution et qu'on a moins de 25 ans, eh ben, on retourne dans une situation de pauvreté qui rend de plus en plus long la dynamique d'insertion professionnelle.
Saura-t-on enrayer le chômage des jeunes ? C'était le reportage de Léa Gage.
France Inter. On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
La secrétaire générale de la CFDT, le premier syndicat français, est l'invitée d'On n'arrête pas l'écho. Bonjour et bienvenue, Marie.
Bonjour. Lyon.
Vous avez entendu le reportage avec nous, hein, pour insérer ces jeunes sur le marché du travail. La France a un problème, c'est plus lent, c'est plus difficile qu'ailleurs. Qu'est-ce qui coince chez nous ?
Bah, ça a été bien expliqué dans le reportage. Il y a deux éléments principaux. Un, c'est le stop and go, c'est-à-dire qu'on décide de politique. Et puis, au bout de quelques mois, on ne leur laisse pas le temps de se développer. Et le deuxième problème, c'est que pour un accompagnement des jeunes, il faut et un filet de sécurité en termes de moyens financiers, il faut un accompagnement de qualité. Et en fait, on voit aujourd'hui, en 2025, les coups de rabot qu'il y a eu sur le budget, notamment des structures qui accompagnent les jeunes, notamment les plus éloignés de l'emploi, et je pense notamment aux missions locales. Elles nous disent, parce qu'elles sont en mouvement le 14 mars, vendredi prochain, elles nous disent « on n'a plus les moyens d'accompagner, on nous baisse les moyens de façon continue, c'est moins 6% sur le budget des missions locales globalement, c'est moins de moyens sur les parcours contractualisés d'accompagnement dont il était question. Et donc, à un moment, si on veut véritablement considérer la jeunesse comme une chance pour ce pays, il faut y mettre les moyens et arrêter de lancer un certain nombre de dispositifs qui souvent se superposent et où finalement personne ne s'y retrouve.
Marie-Lise Léon, tout à l'heure j'ai dit le chômage remonte. En fait, j'aurais dû dire le chômage devrait remonter, nous disent les économistes. Parce que c'est vrai qu'on a des projections, on le voit remonter à 8%. Vous, justement, de votre position, vous voyez les plans sociaux, Michelin, Vancorex, Auchan, vous voyez aussi ce qui est plus silencieux, les PME qui ferment, les suppressions de postes, etc. Est-ce que vous êtes inquiète pour les mois qui viennent?
On est inquiet depuis le mois de septembre de l'année dernière. On voit bien qu'il y a des difficultés de projection des entreprises. C'est ce que nous disent les militants dans les entreprises, lorsqu'ils dialoguent avec les employeurs, qu'il y a un ralentissement, qu'il y a moins d'investissements, qu'il y a moins de perspectives économiques, et que sur les questions d'emploi, il y a des inquiétudes. On a réalerter le ministère du Travail et de l'Emploi, d'ailleurs, en fin d'année dernière, en disant il faut qu'on puisse parler des questions d'emploi, parce qu'on voit qu'effectivement, il y a une montée des plans sociaux, des plans de sauvegarde de l'emploi, mais il y a tout ce qui est sous les radars, c'est-à-dire des destructions d'emplois dans des petites structures où il n'y a pas forcément de dispositifs collectifs, de procédures collectives où les organisations syndicales peuvent être parties prenantes
dans
pour défendre les emplois. Ça concerne tous les secteurs, beaucoup de secteurs d'activité, les transports, le bâtiment, les commerces, le social et le médico-social. On voit que ça brasse un certain nombre, une grande hétérogénéité de secteurs et ça concerne beaucoup de territoires. C'est vraiment très très dispersé et ça concerne l'ensemble des bassins d'emploi. Et donc on a nous demandé rapidement à la ministre du Travail de pouvoir se voir parce qu'il y a aujourd'hui le sentiment général dans les entreprises, c'est que lorsque les annonces sont faites, c'est extrêmement brutal et il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas de difficulté partagée et de se dire comment on fait en sorte de maintenir des emplois, réorienter l'activité, organiser une reprise de l'entreprise. Donc on a réussi à le faire, je pense notamment avec la coopérative chez Duralex l'année dernière. Mais et il y a ce sentiment d'urgence et d'impuissance des représentants du personnel de se dire lorsqu'on est au courant, c'est déjà trop tard. Donc il faut pouvoir travailler sur ces leviers, la façon dont on peut au mieux anticiper et préserver les emplois. Puisque moi, en tant que syndicaliste, je ne suis pas là pour compter les licenciements. Moi, je veux pouvoir les empêcher, faire en sorte qu'on les évite et comment on maintient les emplois dans les territoires.
Nous sommes le 8 mars et cet après-midi, vous serez à la manifestation pour le droit des femmes en tant que syndicaliste. Mmh. Alors, les femmes salariées, les femmes demandeuses d'emploi, les femmes retraitées, est-ce que les droits des Françaises progressent ou est-ce qu'on est en train de patiner ?
On patine, on avance extrêmement lentement et comme vous le soulignez très bien, aujourd'hui un chômeur en France, c'est une chômeuse majoritairement. Une personne au SMIC en France, c'est une femme qui est au SMIC. Et donc il y a des progrès qui sont faits, mais extrêmement lents. Et je pense que c'est cette lenteur qui devient insupportable et on a besoin, s'il y a un message à retenir aujourd'hui, c'est qu'il y a besoin d'un engagement beaucoup plus fort des employeurs sur cette question.
Par exemple.
Qui semble s'accommoder, qu'il y ait des inégalités salariales, qui semble s'accommoder, qu'il puisse y avoir des difficultés d'évolution de carrière plus compliquées pour les femmes, qui semble s'accommoder, qu'il n'y ait pas qu'il y ait plus de femmes dans des temps partiels subis. Donc, il y a besoin de revoir profondément un certain nombre d'éléments. Je pense notamment à la question de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Il y a aujourd'hui des index, un index qui doit permettre de mesurer. Aujourd'hui,
on l'a eu hier.
A des entreprises. Il a un petit peu progressé, sauf que on n'y est pas. On n'est pas à l'égalité. On n'est pas encore à l'égalité. Donc, qu'est-ce qu'on met en place véritablement ? Et cet index permet de faire une photographie. Et en fait, on a des entreprises qui nous disent aujourd'hui, moi j'ai eu une bonne note, donc j'attends l'année prochaine de voir ce que ça donne. Il faut véritablement travailler sur la dynamique, la façon dont les entreprises veulent progresser. Et donc ça, il faut revoir cet index. Mmh. Cet index, il a trop d'exemptions, il ne permet pas de mettre véritablement les écarts en lumière. Et quand les écarts ne sont pas visibles, on considère qu'ils n'existent pas. Donc il faut pouvoir le réviser. Et puis, il faut s'appuyer sur l'Europe. On est à un moment particulier. Mais là aussi, je tenais à dire, il y a une directive européenne qui va nous faire progresser sur cette question salariale, justement pour qu'il y ait plus de transparence. Donc il faut rapidement transposer cette directive pour pouvoir faire progresser cette question.
Il me semble que c'est prévu, ça devrait être fait avant.
C'est prévu, mais bon,
ça devrait être fait avant la fin de l'année.
Je ne vois pas ce qu'on attend. Pourquoi est-ce qu'on attendrait plusieurs mois en se disant on a le temps de la transposition ? Ça devient extrêmement urgent. Et puis, comme on a eu la cause des femmes a été régulièrement proposée comme grande cause nationale, je pense que ça mérite de pouvoir être traité le plus rapidement possible. Cette question de la journée cette journée du 8 mars, moi je voulais aussi dire, il y a la question de l'égalité salariale. C'est aussi une question de dignité au travail. Et j'ai aujourd'hui une pensée pour les salariés de la propreté qui sont en mouvement à Sciences Po parce qu'elles n'ont pas des conditions de travail dignes, elles n'ont pas les moyens de pouvoir faire correctement leur travail et que ça aussi, ce sont des emplois féminisés et que ça fait partie des sujets sur lesquels il faut pouvoir aussi dire à un moment, on fait le constat, quand ce sont les secteurs d'activité où il y a une forte proportion de femmes, ce sont des secteurs qui sont les moins payés. Mmh. Donc, il faut aussi travailler avec les employeurs sur cette progression et le fait de se dire, c'est aussi comme ça qu'on va gagner l'égalité entre les hommes et les femmes.
La CGT veut faire de 8 mars une journée de mobilisation, aussi une première étape pour relancer la contestation contre le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Mmh. C'est aussi ce que vous voulez faire ?
La première étape des retraites, c'est d'avoir des discussions sérieuses qui permettent d'obtenir des avancées concrètes. Donc pour la CFDT, la question des retraites, elle se passe d'abord dans les discussions avec le patronat, qu'il faut pouvoir faire bouger, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'envoyer un signal pour la cohésion sociale. On a besoin de dire aux salariés qui ont été durement impactés par le report de l'âge légal qu'il y a d'autres alternatives et que leur situation, elle compte et que leur situation peut être améliorée, notamment pour la CFDT. On a un énorme enjeu autour de la reconnaissance des métiers pénibles, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des salariés qui ne peuvent pas travailler physiquement jusqu'à l'âge légal de la retraite et qu'il faut pouvoir anticiper ces situations et reconnaître lorsque le corps a été usé.
Vous avez 3 mois pour trouver, pour partir de positions très divergentes et arriver peut-être à un accord, mais d'ores et déjà, votre négociation elle est percutée par l'annonce du réarmement. Mmh. Cette semaine, on a le président du MEDEF, Patrick Martin, qui a souligné que les Danois ont décidé de reporter, je le cite, à 70 ans l'âge de départ à la retraite pour que l'économie finance l'effort de guerre. Marie-Lise Léon, qu'est-ce que vous en pensez ?
Mais je pense que ce n'est pas tout à fait la raison pour laquelle le Danemark a mis l'âge légal à 70 ans, puisque c'est dans le cadre d'une réforme de long terme qui a été décidée autour des années 2005-2006 de mémoire. Donc en fait, je pense que l'argument ne tient pas. Par contre, ce que je retiens de l'exemple danois, c'est lorsqu'on a une ambition politique de réformer en profondeur un régime social, on se donne le temps de le faire. Et donc, je le rappelle, la position de la CFDT, c'est d'avoir un régime universel à la carte.
Mais vous entendez
la vraie innovation
sociale. Vous entendez le débat qui monte.
Le contexte est complètement différent.
Je suis d'accord. Le débat aujourd'hui, contexte différent. Est-ce qu'on avait les moyens de se payer un modèle social, allez, disons généreux, et est-ce que maintenant on ne l'a plus ? Est-ce qu'il va falloir travailler plus ? Est-ce qu'il faudra faire des coupes dans les dépenses sociales ?
La question, elle ne se pose pas dans ces termes. Et je pense que le débat aujourd'hui, c'est on doit pouvoir tenir économiquement. Pour garantir notre souveraineté et je le redis, consolider, voire réparer notre cohésion sociale. On ne peut pas non plus faire comme si on n'avait pas traversé ces derniers mois une grave crise démocratique.
Mais est-ce qu'on en a les moyens ? C'est ça que vous demandez ce débat.
Je pense qu'on n'aura pas d'autre choix parce qu'on ne traversera pas les mois à venir sans une cohésion sociale forte. Donc il faut pouvoir la préserver, voire même la consolider, la réparer et intégrer ces éléments de souveraineté que je constate aussi comme vous et que je vois bien qu'il va falloir intégrer. Ça veut dire qu'il va falloir se reposer les questions.
Qui va payer ?
Qui va payer
pour le réarmement ? Marie-Lise Léon, elle dit quoi ?
Non, mais j'ai pas la solution. Moi,
le chef de l'État vous a demandé des solutions.
Eh ben, j'attends qu'il nous demande dans quel cadre on va pouvoir en discuter. C'est pas la CFDT toute seule qui aura la réponse magique. Moi, je suis prête à ce qu'il organise, comme on le demande depuis de nombreux mois, une conférence des finances publiques. Je pense qu'aujourd'hui, on en a plus que jamais besoin et qu'on mette toutes les parties prenantes autour de la table et qu'on voit quels équilibres et comment on peut au mieux construire la robustesse économique dont on a besoin aujourd'hui. Mais
ce débat,
moi,
vous agace,
mon message,
ou pas ?
Ça sera une robustesse économique qui ne devra pas se faire au détriment du modèle social. Parce qu'il n'y a pas que l'économie dans la vie, il va falloir aussi tenir compte des attentes sociales. Et elles sont énormes. Et on ne fera pas face aux défis actuels, notamment à l'échelle européenne. Je pense que c'est là aussi que, en tant que citoyen français, on doit aussi se sentir citoyen européen. Défendre l'Ukraine qui a été agressée par un autre pays et qui doit pouvoir aussi sentir cette solidarité européenne qui est vitale dans la période.
Marie-Lise Léon, la numéro 1 de la CFDT, merci d'avoir accepté l'invitation.
Merci
du MAGECO.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Sandrine Foulon, Ève, notre auditrice, elle est conductrice de bus en Haute-Savoie. Son employeur voudrait que les salariés installent sur leur téléphone perso une appli pro pour qu'ils puissent échanger facilement des informations avec l'entreprise. Est-ce qu'Ève peut refuser ? Quels sont les risques de cette incursion du boulot dans sa vie privée ?
L'appli dont vous parlez, Eve, est censée vous faciliter la vie. L'idée est de pouvoir consulter les plannings, de faire des demandes d'absence, de recevoir des messages de l'entreprise. Mais vous, vous vous demandez si l'employeur en profitera pour vous géolocaliser ou consulter vos données. Cette protection de la vie privée nécessite bien sûr d'être encadrée. Le CSE, le Comité social et économique, doit être consulté et chaque salarié informé. La technologie va très vite, mais les grands principes de finalité et de proportionnalité restent les mêmes. La grande loi informatique de 1978 exige de savoir à quoi sert une caméra de surveillance ou un nouveau logiciel et s'il n'y a pas un risque de contrôle injustifié des salariés. Mais ce qui pose surtout un problème dans le cas que vous évoquez, Eve, c'est le téléphone personnel. L'employeur ne peut pas vous obliger à installer une appli sur votre tablette, votre ordi ou votre smartphone. De manière générale, si vous êtes d'accord pour que votre matériel serve à réaliser des tâches de boulot, l'entreprise doit prévoir des compensations financières. Ce n'est pas à vous de supporter les coûts de maintenance. Mais le plus simple, c'est encore de séparer la maison et le travail et que l'employeur fournisse des téléphones strictement réservés à un usage professionnel.
Mais Sandrine, on imagine que ça pourrait coûter très cher aux entreprises.
Ce qui coûte encore plus cher, Alexandra, ce sont les cyberattaques. Les entreprises favorisent la mobiquité, attawad en anglais, c'est-à-dire travailler de n'importe où, n'importe quand. Pour faciliter le télétravail et faire au passage quelques économies, les directions tolèrent, voire encouragent ce qu'on appelle le « bring your own device », apporter votre propre matériel. Mais ces appareils personnels sont devenus des cibles de choix pour les pirates. Ce sont des verrous facilement craquables pour accéder aux données de l'entreprise. Sécuriser votre téléphone suppose de renforcer les mots de passe, les antivirus, de mettre en place des chiffrements de flux avec des VPN. L'idéal serait d'interdire le téléchargement de certaines applis, de restreindre la navigation sur Internet. Mais c'est quand même votre téléphone et l'employeur n'a pas le droit de vous priver de vos sites préférés. Encore une fois, cloisonner la partie pro et privée sur un même smartphone, c'est compliqué. Autant demander un appareil pro qui ne servira qu'aux pros.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.